Histoire d'en savoir plus sur Radio Grand Ciel, Alain Roumestan pour des informations clés en main. Mais trop souvent oublié par les médias, aujourd'hui, l'écrivain Albert Camus et l'histoire. Camus qui suscite encore la polémique, Camus qui subit une campagne contre lui en Algérie, mais qui est présent en France dans de nombreux magazines, dans de nombreuses études. Les ponctuations musicales seront assurées par Daniel Sieg, saxophoniste chartrain et son Black Moon avec son sextet jazz Evanescence, le jazz que Camus aimait, comme Mozart, Bizet, Mahler, le Paso Doble, la musique brésilienne, la chanson populaire. Pour l'étudiant que j'étais en 1968, Albert Camus était certes l'auteur remarquable de romans, L'étranger, La mort heureuse, D'essai, Le mythe de Sisyphe, L'homme révolté, de pièces de théâtre, Caligula, L'état de siège, Les justes, d'adaptation, Les possédés de Dostoïevski, mais il avait une tâche rédhibitoire, il était le représentant trop prudent d'une certaine bourgeoisie intellectuelle qui n'avait pas pris le parti des indépendantistes algériens. Jean-Paul Sartre, qui allait grimper sur le toit d'une automobile en 68 pour haranguer la foule estudiantine et occasionnellement ouvrière, était l'idole qui se mettait au service de la classe ouvrière, qui prenait des risques, qui se mouillait, intellectuel engagé par excellence. Il avait choisi le bon côté politique de l'époque et allait en 1973 fonder le quotidien Libération. Pour lui, la violence est la seule chose qui reste aux étudiants qui sont jeunes, qui pensent qu'ils ne sont pas encore rentrés dans le système que leur ont fait leurs pères et qui ne veulent pas y entrer. Sartre et Camus s'opposèrent très tôt. En pleine guerre, Camus avait rencontré Sartre en juin 1943 au jury du prix littéraire de la Pléiade créé par l'éditeur Gallimard. Il s'était retrouvé en octobre 1946 chez André Malraux, s'opposant sur la Ligue des droits de l'homme, jugée trop proche des communistes et de l'URSS par Camus, qui désirait la création d'une nouvelle organisation concurrente. Le comité directeur de la revue Les Temps modernes se réunit alors avec Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Michel Léris, Jean Poyan, Raymond Aron, Maurice Merleau-Ponty, mais sans Camus. Après-guerre, en 1947, Camus avait voulu apporter de l'aide aux intellectuels de l'Europe de l'Est, investis par les soviétiques. Il disait alors « Nous avons à donner une forme à la protestation des hommes contre ce qui les écrase ». Puis Camus publiait son essai sur la révolte, « L'homme révolté ». Il affrontait alors une polémique très dure qu'il opposait à Sartre, aux Sartriens, aux communistes, sur fond de camps d'internement en URSS. Francis Janson fit une critique virulente de l'homme révolté dans les temps modernes. Réponse de Camus, « Je suis là d'être critiqué par des gens qui n'ont jamais mis que leur fauteuil dans le sens de l'histoire ». Au printemps 1960, Sartre rencontrait même Fidel Castro en présence de Che Guevara et était subjugué par les deux hommes. Camus n'aurait sans doute pas été d'accord, mais il était décédé dans un accident de voiture le 4 janvier 1960, et Sartre s'était ainsi exprimé à sa mort. Son humanisme têtu, étroit et pur, austère et sensuel, livrait un combat douloureux contre les événements massifs et difformes de ce temps. Par l'opiniâtreté de ses refus, il réaffirmait au cœur de notre époque, contre le veau d'or du réalisme, l'existence du fait moral. Albert Camus est devenu le maestro, comme le nomme Abdelmalik, rappeur-écrivain qui a publié un Camus, l'art de la révolte. Beaucoup pourraient se reconnaître dans le hashtag « Tous Camus ». Pour Jean-Marie Le Clésio, Camus, avec son esprit qui voisine la sainteté, est profondément un chrétien, comme en témoigne sa thèse sur Plotin. Éric Orsenna cite Camus, « Mal nommer les choses ajoute au malheur du monde ». Camus est donc incontournable sur la nécessité de l'Europe, la lutte contre la souffrance, l'injustice, la violence, l'oppression, la haute idée de la résistance, la notion de gauche, la définition de la patrie, l'engagement politique, l'héroïsme au quotidien, les vertus et la vérité, l'absurde de la condition humaine. Que l'on prenne la peine de lire ou de relire ses lettres à un ami allemand, ses discours de Suède, lorsqu'il a reçu le prix Nobel de littérature, ou encore cette magnifique correspondance entre André Malraux et lui, parue chez Grasset, écrite en 1957, ces phrases résonnent tout particulièrement en 2018. Héritière d'une histoire corrompue où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire mais ne savent pas plus convaincre, où l'intelligence est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression, cette génération a dû restaurer à partir de ses seules négations un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Ce qui caractérise notre temps, c'est l'irruption des masses et de leurs conditions misérables devant la sensibilité contemporaine. Quand une classe dirigeante mesure ses fortunes, non plus à l'arpent de terre ou au lingot d'or, mais au nombre de chiffres correspondant idéalement à un certain nombre d'opérations d'échange, elle se voue à mettre une certaine sorte de mystification au centre de son expérience et de son univers. Des millions d'hommes auront aussi le sentiment de connaître tel ou tel grand artiste de notre temps, parce qu'ils ont appris par les journaux qu'il élève des canaris ou qu'il ne se marie jamais que pour 6 mois. Il n'y a pas de culture sans héritage et nous ne pouvons ni ne devons rien refuser d'une autre, celui de l'Occident. Thank you. Quelle attitude et pensée clairvoyante sur l'Algérie et la France à l'aune de ce que nous connaissons avec les relations actuelles si particulières entre les deux pays ? On a reproché à Camus son silence au sujet du conflit algérien dans les années 60, alors qu'il n'avait pas l'intention de hurler avec les loups. Le fameux « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère » l'a voué aux gémonies. Dans sa rencontre avec les étudiants de Stockholm, lors de la remise de son prix Nobel, il a explicité sa position. À l'étudiant algérien qui réclamait justice, il a répondu « En ce moment, on lance des bombes dans les tramways d'Alger. Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways. Si c'est cela la justice, je préfère ma mère. » Ou encore « Ce dont j'ai le plus souffert est de rencontrer ainsi un visage de haine chez un frère. » Camus était douloureusement atteint par la guerre d'Algérie, touché dans sa chair et dans ses amitiés les plus profondes. Dans le premier homme, son personnage, Jacques Cormery, qui rend visite à sa mère à Alger, est le témoin d'un attentat terroriste. Dans Actuel 3, Chroniques algériennes, il montre à ses détracteurs qu'il a pris, bien avant eux, la défense du peuple arabe d'Algérie. Sans oublier que dès avril 1937, Camus a soutenu le projet Léon Blum et Maurice Violette pour un statut de citoyen pour les Français musulmans d'Algérie. Relisons-le une fois encore. Dans l'impossibilité de me joindre à aucun des camps extrêmes, devant la disparition de ce troisième camp où on pouvait encore garder la tête froide, doutant aussi de mes certitudes et de mes connaissances, persuadé enfin que la véritable cause de nos folies réside dans les mœurs et le fonctionnement de notre société intellectuelle et politique, j'ai décidé de ne plus participer aux incessantes polémiques et personnellement, je ne m'intéresse plus qu'aux actions qui peuvent, ici et maintenant, épargner du sang inutile. D'où des démarches qu'il va effectuer en faveur des personnes atteintes dans la plus grande discrétion pour qu'elles réussissent, hors du regard du grand public. Sceptique sur les solutions à mettre en place pour l'avenir algérien, favorable à une Algérie de peuplement fédéré, solution prônée par des juristes, sa position d'homme pourrait se résumer par un « ni victime, ni bourreau ». En 1955, Camus va collaborer au journal L'Express et va s'exprimer sur la guerre d'Algérie. Il lance début 1956 son appel à la trêve civile en Algérie avant de démissionner du journal. Quelle clairvoyance aussi dans l'approche du communisme des années d'après-guerre. La correspondance de Camus avec Malraux révèle un Albert Camus qui pense et agit avec grand discernement et souvent à contre-courant, en pleine période d'après-guerre et de début de guerre froide, avec en France une audience très forte du Parti communiste. Camus, qui avait adhéré pour une courte période au Parti communiste en 1936, comme Malraux d'ailleurs, compagnon de route du PCF comme il s'intitulait, refuse le noyautage du mouvement de libération nationale par les communistes. Tous deux critiquent le régime et le totalitarisme stalinien. Comme Camus l'écrit dans Les Justes, on commence par vouloir la justice et on finit par organiser la police. Les deux écrivains croient en la nécessité de mener le combat social, mais pas n'importe comment, ni à n'importe quel prix. En 1948, à la suite d'un article de Merleau-Ponty dans Les Temps modernes, dans lequel ce dernier écrit « Malraux appartient à la Ligue des espoirs perdus », car Malraux voulait rouvrir les dossiers de l'occupation, Camus est alors dans le camp de Malraux. Malraux renonce à la mythologie socialiste du peuple et la dénonce, et l'antitotalitaire qu'est Camus est sur la même longueur d'onde. André Malraux et Albert Camus s'étaient pour la première fois rencontrés en mars 1940 et avaient échangé par lettre pendant l'occupation allemande. Malraux combattant et Camus rédacteur en chef du journal clandestin Combat se voient chez l'éditeur Gallimard. Les deux hommes ont la certitude qu'il faut agir pour la dignité humaine. Ils sont confrontés aux horreurs de la guerre, à la torture et à l'ultra-violence nazie. Dans Combat, Camus écrit « Deux hommes face à face dont l'un s'apprête à arracher les ongles à un autre qui le regarde. Et ceux qui ont fait cela savaient céder leur place dans le métro, tout comme Himmler, qui a fait de la torture une science et un métier, rentré pourtant chez lui, par la porte de derrière, la nuit, pour ne pas réveiller son canari favori. 1000 fusils braqués sur lui n'empêcheront pas un homme de croire en lui-même, à la justice d'une cause. Et s'il meurt, d'autres justes diront non, jusqu'à ce que la force se lasse. » Dans ses lettres, un ami allemand, écrite sous l'occupation, dans la clandestinité, alors que leur amitié d'avant-guerre se termine, Camus fulmine. Il est des moyens qui ne s'excusent pas. Vous n'aimez pas votre pays, vous nous croyez étrangers à l'héroïsme, nous le professons parce que 10 siècles d'histoire nous ont donné la science de tout ce qui est noble. Et il décrit la promenade matinale d'un ouvrier français marchant à la guillotine dans les couloirs de sa prison et exhortant ses camarades de porte en porte à montrer leur courage. C'est déjà beaucoup de savoir que la vérité l'emporte sur le mensonge à énergie égale. Vous, en Allemagne, vous êtes l'homme de l'injustice. Il n'est rien que mon cœur puisse t'en détester. Je vous combats parce que votre logique est aussi criminelle que votre cœur. Vous avez supposé qu'en l'absence de toute morale humaine ou divine, les seules valeurs étaient celles qui régissaient le monde animal, c'est-à-dire la violence et la ruse. Camus l'Européen n'a que trop souffert de la haine entre les deux nations, la France et l'Allemagne. Toujours à son ancien ami allemand, Camus lance au visage « Vous autres Allemands, en fait, vous autres nazis, nous autres Français, nous autres Européens. » Car Camus veut l'Europe et il le dit « J'aime trop mon pays pour être nationaliste. » Certes, nous avons mis dans le mot « patrie » la flamme d'une intelligence où le courage est plus difficile, mais l'Europe est pour nous cette terre de l'esprit où depuis 20 siècles, se poursuit la plus étonnante aventure de l'esprit humain. La tradition chrétienne n'est qu'une de celles qui ont fait cette Europe. Et Camus célèbre cette Europe si diverse, mais si européenne par ses mots. « Je recommence ces pèlerinages que j'ai faits avec tous les hommes d'Occident, les roses dans les cloîtres de Florence, les bulbes dorés de Cracovie, le Hradschin et ses palais, les statues contorsionnées du pont Charles, les jardins délicats de Salzbourg. Et Camus conclut au sortir de la guerre, « L'Europe sera encore à faire, elle est toujours à faire, mais du moins elle sera encore l'Europe. » Et il fait référence à son ami Malraux. « Malraux, ce n'est pas gratuit. Opposer Occident et Orient, c'est un fait de pensée. » Pour Camus, il y a un fossé entre les deux civilisations et l'Europe est incapable d'éprouver la plénitude ascétique de l'Asie. Ce qui sépare l'Europe de l'Orient, c'est l'individualisme. Quoi que nous fassions, nous sommes grecs et chrétiens et nous essayons d'organiser le monde autour de l'homme. Écoutons pour finir Albert Camus, un document fort, lors de la remise de son prix Nobel de littérature.
Sire, Madame, Altesse Royale, Mesdames, Messieurs, en recevant la distinction dont votre libre Académie a bien voulu m'honorer, ma gratitude était d'autant plus profonde que je mesurais à quel point cette récompense dépassait mes mérites personnels. Tout homme, et à plus forte raison, tout artiste, désire être reconnu. Je le désire aussi. Mais il ne m'a pas été possible d'apprendre votre décision sans comparer son retentissement à ce que je suis réellement. Comment un homme presque jeune, riche de ses seuls doutes et d'une œuvre encore en chantier, habitué à vivre dans la solitude du travail ou dans les retraites de l'amitié, n'aurait-il pas appris avec une sorte de panique un arrêt qui le portait d'un coup seul et réduit à lui-même au centre d'une lumière crue? De quel cœur aussi pouvait-il recevoir cet honneur à l'heure où en Europe d'autres écrivains et parmi les plus grands sont réduits au silence et dans le temps même où sa terre natale connaît un malheur incessant? J'ai connu ce désarroi et ce trouble intérieur. Pour retrouver la paix, il m'a fallu en somme me mettre en règle avec un sort trop généreux. Et puisque je ne pouvais m'égaler à lui en m'appuyant sur mes seuls mérites, je n'ai rien trouvé d'autre pour m'aider que ce qui m'a soutenu tout au long de ma vie et dans les circonstances les plus contraires, je veux dire l'idée que je me fais de mon art et du rôle de l'écrivain. Permettez seulement que dans un sentiment de reconnaissance et d'amitié, je vous dise aussi simplement que je le pourrai, quelle est cette idée. Je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas se séparer. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui souvent a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne règnera plus le juge, mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel. Le rôle de l'écrivain, du même coup, ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent.
Pour ceux et celles qui veulent connaître encore mieux l'homme Camus, amoureux de l'immense comédienne Maria Cassares, Le 5 juin à 18h30, à la librairie L'Esperluette, nous recevrons Florence Forsyth, l'auteur de Tu me vertiges. Et on peut réécouter cette émission, Camus et l'histoire, sur www.radiograndciel.fr, histoire d'en savoir plus.